Joseph Kabila Kabange, élu président de la République démocratique du Congo, j'ai juré solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale et de me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
C'est par ces serments que le président Joseph Kabila s'est donc engagé aujourd'hui à conduire le peuple congolais sur le chemin de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Dialogue entre Congolais s'épanche ce soir sur cet événement qui marque le début de la Troisième République. Et comme toujours, nos auditeurs participent déjà nombreux à cette émission. Marie-Claire Aïssiro en province orientale écrit ceci. Grande est ma joie d'entendre le sifflet de la fin de la récréation. Pour Pati Kapisu à Kolwezi au Katanga, ça y est, la prestation des serments est faite. Maintenant, le président élu doit réaliser ses promesses. Olomide depuis Guémena en province de l'Équateur nous a écrit en Lingala, mais voici la traduction de son message en français. Je souhaite un bon début au président de la République, mais qu'il ne nous oublie pas, nous, habitants de la province de l'Équateur. Trésor Wanadi en Bujimayo au Kasa Oriental nous dit ceci. Qui veut la paix, prépare la guerre, dit-on. Joseph Kabila doit former rapidement une armée forte avant toute autre chose. Pour Jean-Jacques Debounia en district de l'Ituri, que les Congolais ne puissent pas croire que dès demain, le Congo devient le paradis. Nous devons tous plutôt nous atteler à la reconstruction de ce paradis. Des Rutshuru au Nord Kivu, Roger écrit ceci. Comme il vient de prêter serment, qu'il termine la guerre à l'Est, car Kunda va arriver nous massacrer. Toujours au Nord Kivu, Dika de Goma dit. Avec la fin de la transition, tous les belligérants ont eu ce qu'ils cherchaient. Ils se sont construits des belles maisons et acheté des belles voitures. Les Congolais les savent très bien. Et pour Blaise Chimbadi Nyaka à Kananga au Kasa Occidental, que le président élu ne déçoive pas les 9 millions d'électeurs qui lui ont fait confiance. Et merci au peuple congolais pour avoir fait preuve de citoyenneté en acceptant la décision de la Cour suprême de justice. Et par Internet, Moulo Twangama de Manchester, Grande-Bretagne, remercie tous les acteurs qui ont contribué à l'avènement qui accouche aujourd'hui d'un garçon, à savoir la Troisième République d'un pays démocratique. Alors, comme invité ce soir, nous sommes avec Maître Thomas Luango, analyste politique et chargé de cours à l'Université catholique de Bukavu, Philippe Biyoya, analyste politique et professeur des relations internationales à l'UNILU. Bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Bonsoir à vous tous qui nous suivez. La cérémonie d'investiture du premier président de la Troisième République, c'est aujourd'hui au jardin du Palais de la Nation. 9 chefs d'État africains ont pris part à cette cérémonie à côté d'autres délégations du monde, dont la plus importante était celle de la Belgique, avec son premier ministre et 3 autres membres du gouvernement. Tous les anciens vice-présidents étaient présents à la cérémonie, sauf M. Jean-Pierre Bemba. Le président a prêté son serment devant 43 juges et magistrats de la Cour suprême de justice. Le président a prononcé aussi son discours d'investiture, dont d'ailleurs nous allons suivre entendre un extrait au cours de cette émission. Mais avant cela, parlons brièvement de certaines préoccupations de nos auditeurs quant au serment du président Joseph Kabila et de ce qu'impliquent ces serments. D'abord, des Kananga, Colin demande au président élu de respecter son serment et de servir les Congolais selon qu'il le jure devant Dieu, la nation et la communauté internationale. Kankonde Amé dit toujours à Kananga, dit le serment est un acte sacré que le président élu et sa famille politique respectent le peuple congolais en tenant parole. Alors, professeur Biyoya, est-ce que là la signification même qu'on peut donner à cette prestation des serments d'aujourd'hui?
Merci de la question. Je crois que l'événement était très attendu et le serment, il a toujours son sens, hein, parce qu'il n'avait pas un sens au-delà de la légalité, s'il n'avait pas une implication politico-sociale. Je crois que il ne prendrait pas l'importance qu'on lui donne, mais je crois que c'est de bonnes causes que les gens attendent, exigent de celui qui demain parlera au nom de tout le monde, qu'ils tiennent et ils honorent les engagements qu'il a pris.
Oui, Maître Thomas Luango, c'est serment qu'un de nos auditeurs vient de dire que c'est un acte sacré. A-t-il un caractère contraignant?
Oui, nous avons dit déjà hier que, en quelque sorte, oui, les textes ne disent pas que la violation du serment constituerait une faute, encore moins une infraction. Mais la violation des engagements pris, et j'aime à cet égard le texte du serment que prête le chef de l'État selon cette constitution. Et effectivement, il y a là une énumération des obligations du chef de l'État, obligations par ailleurs sanctionnées en cas de violation par spécialement les dispositions sur la haute trahison. Je pense que les deux se lient, donc ceci a quand même un caractère contraignant, pas le serment lui-même évidemment, mais les suites des obligations qui sont dans la Constitution et notamment énumérées dans la formule du serment. Alors, voilà, c'est donc obligatoire quand même.
Oui, il y a d'autres préoccupations de nos auditeurs par cette prestation de desserrement. Il y a un jeune Kibou Kila Agoma qui dit « La Constitution de la Troisième République ne prévoyant pas la place des vice-présidents après la prestation des serments du président élu, quelle sera la situation des quatre vice-présidents en attendant l'installation des institutions de la Troisième République? Est-ce qu'on va le bouter dehors ou les caser quelque part ?» Un autre auditeur, Moulamba Augustin de Kindou, lui par contre demande carrément à Joseph Kabila de ne pas reconduire l'ancienne équipe qui a prouvé ses insuffisances. Professeur Biyoya, est-ce que la réussite de la Troisième République va-t-elle dépendre de ses acteurs également?
Bon, je crois que ça dépend de comment il faut prendre la question. Généralement, la question, elle est posée de façon un peu
subtile.
Non, pas subtile, mais qui ne permet pas qu'on y réponde adéquatement. Les choses ont changé. Ce qui doit être le plus important, ce n'est pas le sort des vice-présidents, c'est le sort de tout le Congolais, parce que je constate que les gens ne savent même pas comment, en fait, quel est le système qui est monté par la Constitution. C'est vrai qu'il y a le président de la République, mais il y aura un premier ministre, il y aura un gouvernement. Et puis, nous aurons des gouvernements provinciaux. Il y a la décentralisation que l'on va appliquer. Donc, c'est un système assez lourd, assez complexe. Donc, l'avenir de la Troisième République, c'est vrai que ça repose sur le serment professionnel du chef de l'État en tant que le numéro un qui va dans la direction. Mais la responsabilité de la réussite, c'est pas seulement le chef de l'État, parce que le chef de l'État doit être comme, en fait, le commando, le capitaine d'un bateau. Il doit gouverner, en fait, un grand navire. Il y a énormément de choses. Donc, on ne va pas aller se préoccuper du sort des vice-présidents. C'est pas qu'ils soient le plus important. On doit s'occuper, en fait, du sort des institutions. Et les institutions, la Troisième République, et les gens doivent connaître. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut parler la chose.
Oui, Maître Thomas Luango, qu'est-ce que vous pensez de ces préoccupations des auditeurs qui se demandent par cette prestation des serments si on va continuer à évoluer avec le système des vice-présidents ou non?
Je pense que les choses sont relativement claires. Le texte, évidemment, ne dit rien de ce vice-président. Ils ne sont pas maintenus. La fonction n'étant pas maintenue, personne n'est maintenu en fonction. Par ailleurs, disait encore quelqu'un, il y a eu rupture paradigmatique, c'est-à-dire que les vérités, les nécessités, les légalités anciennes disparaissent. Il est évident que je crois que, comme le dit le professeur Biyoya, on se pose dans le public des questions très personnalisées. Ce qui disparaît, les individus ne peuvent pas demeurer en fonction si la fonction a été supprimée. Je crois que ceci est assez clair. Quant aux individus, je pense qu'aussi les gens ont peut-être à l'esprit un cas, je vais essayer de le formuler clairement, lorsque quelqu'un s'est porté candidat des élections et qui n'est pas élu, cela signifie en principe que le peuple ne veut pas le voir dans une fonction publique, une fonction au moins politique, proche de ce qu'il avait demandé au peuple. Le peuple lui a dit non, je pense qu'en principe, cette personne devrait se tenir à l'écart. Il ne faut pas biaiser avec, jongler avec les systèmes. Le peuple ne veut pas de l'individu. On ne reprend pas cet individu. Bien entendu, ceci n'est pas clair dans nos textes. Mais oui. Il y a des textes, des systèmes qui sont assez clairs sur ce point. Mais le nôtre ne l'est pas. Cependant, je pense que logiquement, lorsque quelqu'un a été rejeté par le peuple lors d'une élection, on ne peut pas le lendemain le retrouver responsable politique du pays.
Oui, Maître Thomas Luango et Professeur Bioya, d'autres auditeurs se sont inquiétés de l'absence du vice-président Jean-Pierre Bemba. Pour eux, ça présage des mauvaises choses pour la suite même des événements en RDC. Est-ce que vous avez la même impression, Professeur Bioya?
Non, pas du tout. Je crois que, je ne sais pas. À la fois, l'on veut que ça change, qu'on rompe de façon pratiquement, ça doit être radical, hein, la rupture entre la Deuxième République et la Troisième République, entre la transition et la Troisième République. En même temps, l'on est porté en fait par un sentiment tout à fait peut-être africain, de toujours voir tout le monde du village ensemble. C'est pas un village, c'est l'État qui l'on gère. Qu'ils ne soient pas venus. Quelles qu'aient été ces raisons pour lesquelles ils ne viennent pas, je crois que ça ne doit pas être un drame. Parce que ce n'était pas une obligation qu'il soit là. Qu'il ait été invité et qu'il n'ait pas répondu, encore une fois de plus, il était libre de ne pas répondre. Parce que ce n'est pas un principe. Il n'est pas dit que parce qu'il devait être là. Qu'est-ce que ça aura apporté? Peut-être pour ceux qui l'auront vu, peut-être parce qu'on les a déjà vus ensemble, on se serait dit, bon, ils sont toujours ensemble. Alors si l'avenir dépend en fait des ententes entre des individus et des personnes et que les institutions n'ont en fait pas de force, je crois que l'avenir demain est encore fragile et précaire. On doit apprendre en fait à aller vers l'État. L'État, on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là.
Alors avec la cérémonie d'aujourd'hui qui tourne donc la page de la transition, comme nombreux les disent, nos auditeurs et tout le peuple congolais ont maintenant les regards tournés vers le futur, un futur qui s'est traduit par la reconstruction du pays, défi d'ailleurs que s'élance le président Kabila pour les 5 années de son mandat. Il l'a dit aujourd'hui dans le premier message adressé au peuple congolais à l'occasion de son investiture. Nous vous proposons à cet effet un extrait de ses discours suivants.
Je vais m'inscrire résolument dans une politique de régénération et de mobilisation des énergies visant à impliquer tous les Congolais dans l'exaltante tâche de construction de notre devenir collectif, en mettant un accent particulier sur le rôle de la jeunesse et du potentiel féminin. Je vois un Congo où, chaque jour, le peuple se remet au travail. Il s'agira essentiellement d'engager les travaux de réhabilitation des infrastructures de voies de communication, notamment les routes, les chemins de fer, les voies navigables, le port et les aéroports, ainsi que les projets agricoles de grande envergure, la réforme du système éducatif, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, les structures de soins de santé et l'habitat, la lutte contre la pauvreté, l'injustice, les inégalités sociales, la protection de l'enfant et de toute personne vulnérable seront aussi au cœur de l'action du gouvernement au cours des 5 prochaines années. Mais nous ne pouvons atteindre cette ambition qu'à la condition qu'un changement plus profond et substantiel interviennent dans notre perception de l'action publique. Pour cela, avec l'accord de tous, j'annonce aujourd'hui la fin de la récréation. Afin que le peuple puisse se consacrer entièrement au travail, et ce, dans la paix et la tranquillité. Je consacrerai toute mon énergie à lutter contre l'intolérance et l'exclusion qui ne font pas partie de nos mœurs et coutumes, mais qui sont souvent les germes de conflit. Il en est de même de la lutte contre l'impunité et l'immoralité politique en ce qui concerne la sécurité de l'État. Je rassure les Congolaises et Congolais de ma ferme volonté d'éradiquer toute forme d'insécurité et de terrorisme urbain. Ce qui se passe actuellement à l'est du pays, avec les bandes armées qui n'ont pas encore compris que ce temps est révolu, sera ma préoccupation principale.
Oui, Maître Thomas Luango, c'est donc là les défis que s'élance le nouveau président de la République, donc Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez d'emblée dire par rapport à ces défis?
Je voudrais d'emblée, comme vous dites, madame, relever que ceci est le discours d'investiture. C'est évidemment un discours très global, valide, censé être valide pour 5 ans. Maintenant, tout est dedans, tout a été dit, le genre de travaux qu'il faudra engager, les valeurs républicaines qu'il faudra absolument sauvegarder, lutte contre l'intolérance, lutte contre l'impunité, lutte pour la sécurité à l'intérieur, notamment contre des gens qui n'ont pas encore compris, qui ne doivent plus porter les armes en dehors des ordres officiels. Tout cela y est, et je pense que c'est tout à fait positif. Maintenant, nous avons 5 ans pour voir venir. Très rapidement, probablement, il faudra qu'il y ait des actions qui nous disent concrètement ce que cela signifie. La volonté est exprimée, la concrétisation, l'opérationnalisation, on pourrait dire, convertir cela en des opérations bien définies, bien déterminées, voilà ce que nous allons voir. Les moyens, nous ne les avons pas encore, on ne les a pas encore indiqués. Bien entendu, les moyens juridiques, lutte contre l'intolérance, contre l'impunité, autrement dit, sur ce deuxième point, que quiconque commettra encore des infractions sera poursuivi, s'il est vraiment coupable, il sera condamné et sanctionné en conséquence. Tout cela va venir, le discours est évidemment très bon. Nous allons voir, j'ai fait confiance, nous allons voir dans les prochaines années, peut-être déjà dans les prochains mois, parce que la situation est quand même très grave, dont ce problème de sécurité à l'Est, des gens qui sont encore armés à l'Est, qui tournent des armes contre la population, parce que nous aurons des éclaircissements les prochains mois.
Oui, Maître Thomas Luango, nous allons maintenant voir ce que pensent nos auditeurs par rapport à ces discours. Il y a John Abaoutou de Gemena, c'est dans la province de l'Équateur, qui souhaite que le nouveau président élu mette en application tout ce qu'il vient de dire aujourd'hui dans son discours. Toujours en Équateur, en Bandaka, Papi Ebolomu Eboissa dit ceci: il ne suffit pas que le président prononce un discours qui impressionne les Congolais, mais de faire des œuvres pratiques qui ressemblent à son discours. Un autre auditeur, il s'appelle Ndoki Ndunda JM, nous écrit de Matadi au Bas-Congo. Il dit ceci: ce discours, c'est du déjà entendu. Gustave de Matadi, c'est toujours au Bas-Congo, lui dit: si c'était pour de beaux discours, la RDC serait un paradis avec Mobutu. Nous avons besoin des actes et non des discours. Professeur Bioya, peut-on comprendre par les propos de tous ces auditeurs que les beaux discours sans actes ont été monnaie courante en RDC, au point même que certains s'en lassent?
Je crois que ce qui est fondamental à relever, c'est que vous récoltez là, vous recueillez des avis à chaud. Et même ici, ce que nous faisons sont des avis à chaud. Et c'est qu'on devrait attendre un peu le temps de refroidir, en fait, le propos du président pour voir très concrètement quelle est la praxis qui découlera, en fait, de cette rhétorique. Parce que là, il s'agit, en fait, d'un embellissement esthétique de la cérémonie. Ce n'est pas, il ne s'agit pas encore de politique. Parce qu'en fait, il y a aussi le Premier ministre qui n'a pas encore pris fonction, on ne connaît pas encore de politique, très concrètement. Et la chose, comme a dit l'avocat qui intervient dans cette
histoire,
ça paraît un peu trop global, au point que maintenant, si vous voulez juger le discours du président, ça peut, on peut être tenté de se prononcer par rapport à l'actualité qui est à l'Est, à l'actualité militaire, tantôt, alors, parce qu'il s'agit de changer un système. tout le monde a convenu que le système de la Deuxième République, c'est un système pourri qui ne fonctionne plus. Oui, et les acteurs, permettez, la plupart des acteurs, si ce système n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des acteurs, et ces acteurs n'ont pas disparu. Parce que quand vous regardez le Parlement, quand vous regardez même la majorité présidentielle, parce que les gens qui applaudissaient ne savaient pas que les discours du président concernaient principalement les gens de la majorité présidentielle qui vont demain être présents partout. Ils ont des majorités partout, ce sont eux qui vont devoir gérer. Donc tous les discours du président s'appliquera d'abord à son propre camp. Voyez, dans la grosse partie, est-ce qu'ils sont tous prêts, en fait, à se régénérer? Parce que le président veut régénérer. Alors, ça signifie quoi? C'est tout quand on siffle la fin de la création. Moi, je suis enseignant pédagogue.
Oui.
L'enseignant doit justifier d'une pédagogie tout à fait spéciale pour éviter l'indolence, parce que pour refroidir ces gens qui se sont réchauffés, surchauffés n'importe comment, pour les remettre, leur donner un centre d'intérêt commun et obtenir qu'ils soient assidus, qu'ils vous suivent et qu'ils comprennent, ça demande quand même une pédagogie assez spéciale.
Oui, vous revenez sur donc ces termes-là, fin de la récréation. Et David Moussekéto Abounia dit ceci: le président de la République vient d'annoncer la fin de la récréation. La guerre de l'Est n'a donc pas le droit d'exister. Donc ça fonde déjà des espoirs dans certains habitants.
Écoutez, c'est ça la portée en fait du message politique du chef de l'État. Ça doit devoir donner en fait des attentes. Ça doit justifier, fonder des attentes. Mais pour que ces attentes-là produisent des soutiens politiques, comme on dit en sciences politiques, il faut une praxis. Il faut des actions concrètes. C'est-à-dire, il faut une politique de sécurité. On ne va pas nécessairement s'attaquer de façon ponctuelle à ce qui se passe chez les bandes armées, sans savoir, parce que la menace sécuritaire, elle est globale. La sécurité, elle est entre militaires, elle est non militaire, elle a plusieurs dimensions. En l'absence d'une politique de sécurité, qui est différente d'une politique de la défense, on ne peut pas déjà dire, voici le résultat. Donc, oui. Nous attendons de voir comment concrètement, quelle sera la politique de sécurité, quelle sera la politique de la défense, quelle sera la politique de la diplomatie, quelle sera la... Tout ça, ça va produire une politique gouvernementale. Et on verra les cohérences. On verra les synergies entre les différents secteurs, parce que l'armée n'est pas armée simplement parce qu'il y a des gens qui ont des armes. On ne mène pas une guerre, on ne détruit pas, parce que les causes, les guerres ne disparaissent pas, parce que on a détruit, par exemple, une bande armée. Il faut qu'on s'attaque aux causes qui sont à la base de convulsions. Alors, c'est ce que nous devons attendre, et nous souhaitons que le gouvernement ne va pas tarder à être mis en place pour que le gouvernement dise très concrètement comment en fait on entend y arriver.
Alors c'est entendu, donc le gouvernement qui va entrer en fonction dans le prochain jour aura donc des grands défis à relever. Mais voyons les priorités hein, pour certains habitants à travers la République et écoutons-les dans ces micro-trottoirs réalisés par les réseaux Okapi.
Oui, je réponds au nom de Mungo Tamakoule. Je suis en Mbandaka. Mes indices seront donnés le jour où nous aurons la formation de ce gouvernement. Tout dépendra de quel type d'homme on doit nous mettre. Mais si la majorité qui a gagné le pouvoir continue à consacrer l'impunité, la médiation, en tout cas, l'avenir ne promet pas, n'augure pas bonnes choses.
Adélaïde Bicéza, je parle de vous et je suis à Bukavu. La première priorité pour moi, en tout cas, ce serait d'abord la sécurité. Après la sécurité, il y a les infrastructures qu'il faut remettre en place.
C'est l'ambassadeur Bwana Katete, je parle de la partie de Kananga. Nous savons que pour réaliser la Troisième République, c'est l'homme et son comportement. Nous devons maintenant changer le comportement. Parce que, vous savez, pendant la récréation, c'était n'importe quoi et n'importe qui et n'importe comment. Il y a eu même l'hyper-législation. Mais cette fois-ci, nous avons notre constitution. Nous avons un seul pays, un seul président et une seule directive que nous puissions suivre afin de bâtir notre pays prospère.
Ok, moi c'est M. Bonel Nkoumou, c'est Photo Bonel. Je suis assécuite au quartier de la Vallée. Il faut qu'il y ait l'emploi pour que le Congolais arrive à bien manger, à se faire soigner, à se vêtir, à scolariser les enfants. C'est ce Congolais qu'on attend demain.
Oui, je réponds au nom de Joseph Kakambiché. Je suis à Lubumbashi. Si l'avenir de la RDC, mais maintenant nous aussi, nous le peuple, comme nous venons de lire, le président que nous avons choisi de nous-mêmes. Et nous n'allons pas croiser les voies. Il nous faut en tout cas aller au travail, c'est-à-dire travailler pour lui donner la chance de réaliser ce qu'il nous a promis.
Aïe, maman Marthe Bongoli, Navana Rana Komina Mati. Président Sika Akoti, problème de Zana Otolingi Boy. Batrakasserie, et si la tombe la paix change, ma pénalité Zaranamiki Moussous. que bon beaucoup mis l'état des droits président Sika Asala Musala Bongi Sabanzela alors bah qu'il y a 5 centièmes à l'île ma maman c'est tout nous sommes maman veuve boy classe peu na deuxième trimestre yo à Bongi Sabiso toko rate ko futa mo ni neval moko ya mpie ko ko sai sa pebis nde makambo to zele pana yi
monsieur Chibangu, je suis habitant de la commune de Kampemba. En tout cas, nous souhaitons que l'avenir de la RDC soit meilleur. Il faudra que l'entourage du chef de l'État soit un entourage correct, conséquent par rapport à la situation de la vie sociale de la population congolaise. Et surtout sur les plans de développement, concret des emplois.
Oui, je suis M. Dani Matondo de Amatadi. Nous souhaitons que nos politiciens, maintenant, ils doivent prendre conscience de travailler pour le peuple et non pour les propres intérêts. À ce moment-là, nous allons faire de bonnes choses dans notre pays. Et ils ne doivent pas contenter leur propre poche. Ils doivent contenter d'abord la population de la reine de ce pays. Sans cela, ils vont échouer. Et nous ne voulons pas qu'ils puissent échouer.
Oui, moi, c'est John Ngoï, ici à Mbujumaï. Si on a des dirigeants compétents, nous aurons aussi un avenir meilleur.
Je réponds au nom de Barthélémy Kibamba. Je suis à Kindu, dans la province du Maniema. L'avenir de la RDC est radieux. Nous allons maintenant nous ouvrir au monde, nous allons nous reconstituer, et le pays, ça sera un paradis sur terre, je suis sûr de ça.
Voilà, avant de commenter un peu ces différentes opinions des certains habitants à travers la République, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas les Lingala, la dame qui s'est exprimée en Lingala disait ceci, brièvement, nous voulons que les tracasseries cessent, nous voulons un changement, que le président travaille convenablement pour nous conduire vers un état des droits, qu'il réfectionne les routes. Nous lui demandons aussi de réaliser les 5 chantiers qu'il a promis. Nous lui demandons également de nous aider à payer les frais scolaires de nos enfants. Voilà, professeur Bioya, donc vous avez suivi ces habitants sur leurs priorités pour ces débuts de la Troisième République. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos?
Bon, il ressort de tout ce que j'entends là que principalement il y a une dimension humanitaire fondamentale qui doit en fait retenir l'attention du chef de l'État et du gouvernement et qui ne suffit vraiment pas de présenter un catalogue en termes, comme on a dit. On respectera ça certainement les infrastructures, ainsi de suite, comme à l'école. C'est qu'il y a une dimension de la vie. Les Congolais disent qu'ils ne vivent pas. Donc il faut d'abord en fait les régénérer, comme il le dit, mais en tant qu'humains. Alors, il faudrait qu'on travaille effectivement à cette humanité. Et je ne pense pas, comme quelqu'un dit là, comme ça, on va s'ouvrir au monde. Nous sommes déjà... Le Congo a été assisté par la communauté internationale. Nous sommes... Ce que nous devons faire, c'est de réduire, en fait, cette ouverture au monde. Parce que nous sommes presque exposés au monde. Nous sommes vulnérables. Nous étions tout fragiles. Et j'ai pu comprendre aussi, quand on reprend l'ensemble de la structure du discours du président, qu'il a noté la volonté des Congolais de demeurer indépendants, de voir le Congo être une nation indépendante. En tout cas, je crois que ça sera ça, le plus grand travail de la diplomatie et le plus grand travail de la politique. Donc, pour me résumer à ce niveau, tout ce qu'on dit, c'est valable, c'est légitime, mais on ne doit pas ignorer que demain, tout ne se fera pas à Kinshasa par le président de la République. Nous aurons des assemblées provinciales, nous aurons des gouvernements provinciaux. Et il y a quand même une sorte de partage. Le président sera une sorte de coordonnateur de l'ensemble de l'action nationale. C'est que demain, on ne regardera pas toujours au président de la République toutes les questions. Il faut que l'on sache qu'on vient d'élire, en fait, des députés provinciaux pour des assemblées provinciales.
Ils vont élire,
des gouverneurs, c'est-à-dire qui ont des chefs des exécutifs provinciaux. Et ces gens-là vont travailler et nous devons ouvrir les yeux parce que pour beaucoup de questions, en fait, ce n'est pas le président qui demandera au gouverneur de diriger les provinces exactement comme il l'entend. Mais il devra, avec eux, en fait, coordonner, harmoniser les choses de vue pour que nous ayons une stratégie globale et à côté, en fait, de stratégies sectorielles, de stratégies qu'on peut appeler partiel. Donc, les gens doivent comprendre que le système de gouvernance demain sera différent. Je sais, dans notre pays, on jure par le président de la République, mais les institutions que nous avons ne disent pas que le président de la République sera un chef personnel, parce qu'il y a aussi cette tendance, nous risquons, nous tous, à force de trop demander au chef de l'État, personne, en fait, ne va chercher aussi à le contrôler, et lui-même aussi, s'il, en fait, il s'abandonne, en fait, à cette désespérance générale qui fait que les gens aient besoin d'un sauveur comme un Christ, nous risquons, en fait, de vivre des dérives.
Oui, Maître Thomas Longo, plusieurs d'entre nos auditeurs mettent un accent particulier sur la corruption. C'est le cas des Blanchard en Mbandaka qui dit être fier parce que nous avons eu un président élu démocratiquement, mais il lui demande d'abolir en premier lieu la corruption avant d'aborder les 5 chantiers. Un autre auditeur, il s'appelle Mulo Twangama, il nous écrit de Manchester, c'est en Grande-Bretagne. Il dit ceci, le seul Laurent Désiré Kabila, qui n'était pas élu et qui n'avait aucune assistance extérieure, a réussi à changer les visages de notre pays en peu de temps. Nous espérons que son fils, qui est placé dans des conditions mieux que son père, mettra fin à la corruption. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs?
Ces auditeurs, évidemment, nos auditeurs sont très coincés par la situation que nous vivons. Nous sommes dans l'impasse apparemment et par conséquent, les gens peuvent parfois, certains ont une pointe de désespoir presque, ou alors ils espèrent beaucoup trop d'un homme. Le professeur Bioya vient de le dire, je pense qu'il ne faut pas penser, il ne faut pas imaginer que c'est seul tel individu qui va changer le monde. C'est nous qui devons agir. C'est nous qui devons lui indiquer ce qu'il doit faire. C'est nous qui devons continuer à faire pression. Et pas seulement sur lui, mais sur le système qui est mis en place. Il n'y a pas qu'un chef d'État. D'ailleurs, si vous voyez bien, c'est tout juste, ceci n'est pas voué à inaugurer des chrysanthèmes. Mais il y a mieux que cela. Nous avons un système dans lequel il y a cette fois-ci un gouvernement central qui va déterminer la politique du pays, autrement dit, tracer l'avenir du pays, bien entendu en collaboration, dit le texte, avec le chef de l'État. Mais c'est ce gouvernement-là qui va définir cette politique, qui va définir notre avenir pour les 5 ans.
Oui, mais Maître Thomas Luango,
les actions à mettre en œuvre.
Oui, mais Maître Thomas Luango, ce que ces auditeurs disent, par exemple, combattre la corruption, est-ce que cela ne pourra pas aider les Congos quand même à évoluer, à émerger?
Combattre la corruption, justement, nous l'entendons tous. Ceci revient en outre à l'idée de combattre l'impunité, parce que ce qui nous va tuer, c'est qu'on pouvait se laisser corrompre ou on pouvait corrompre et demeurer impuni. Au point qu'aujourd'hui, dans les années qui viennent de passer, c'est plutôt le corrupteur qui était l'homme modèle dans le pays. Ceci doit disparaître. L'impunité d'une façon générale, quelle que soit l'infraction, pas seulement la corruption, toutes les formes de corruption morale, toutes les infractions, il est temps que les hommes qui dirigent deviennent un peu des modèles de notre population. Ce que le président Laurent Kabila a fait sans qu'il ait été élu, sans qu'il y ait autour de lui des mécanismes électifs pour le diriger, mais il était animé quand même par une volonté, un passé qui l'obligeait à voir, à ouvrir les yeux et à faire le contraire de ce qui se faisait avant lui. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde va se rallier à l'idée que qui devient gouvernant ne devient pas nécessairement riche, ne devient pas nécessairement corrompu ou corrupteur. Ça, c'est ce qui doit changer de ça. Et pour cela, il faut une justice, comme cela a été dit dans le discours. Il faut une justice qui soit réhabilitée, c'est-à-dire qui soit indépendante. Cela exige qu'elle dispose des hommes nécessaires, des moyens nécessaires, et puis qu'il y ait une impulsion de la nation elle-même et des dirigeants.
Oui.
Je pense que c'est cet appel-là qui nous est lancé.
Oui, Maître Thomas Luango, un auditeur par exemple, dit ceci. Il s'appelle d'abord Shérif et il nous a écrit de Bukavu où vous êtes, c'est au sud Kivu. Et il dit ceci, que le président élu commence d'abord par construire une grande prison, car les prisons que nous avons ne vont pas contenir les malfaiteurs de ces pays. Professeur Bioya.
L'essentiel, je crois que ce n'est pas par la prison qu'on résout tout le problème. Hein. Si vraiment les prisons résolvaient les misères du monde, elles auraient déjà disparu.
N'est-ce pas une façon pour lui de dire qu'il faut combattre à tout prix l'impunité?
Écoutez, l'impunité,
ça peut être une image.
On ne combat pas l'impunité seulement en envoyant des gens en prison, parce que il y a toute une gamme de sanctions. La plus importante des sanctions, c'est la sanction morale. Et je pense que Gizenga sera nommé premier ministre ou quelqu'un du Palou qui est très proche de lui. Parce que je me semble que c'est ça, l'alliance, le pacte du Palou avec l'AMP. c'est qu'on moralise en fait la pratique du pouvoir. Et j'ai pu comprendre dans le discours du président, il a dit que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il annonce, pour que ça se réalise, ça dépend d'une chose, il appelait lui-même que nous changions la perception que nous avons du pouvoir. Ça signifie que ça, c'est vraiment... Moi, je voudrais en fait qu'il comprenne que là, effectivement, il entre dans la dimension morale. Parce que, comme l'a dit l'avocat tout à l'heure là, les gens s'engagent en politique parce que la politique est devenue une carrière, un métier que l'on pratique. C'est pas un service. Et il y a des gens qui sont ici là, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais travaillé. Ils ne sont pas enseignants comme moi, ils ne sont pas fonctionnaires. Leur carrière, c'est la politique. Ils créent des partis politiques. Donc, pour eux, quand ils viennent en politique, c'est pour avoir de l'argent. Ils ne viennent pas servir l'État. Mais est-ce que ça va changer? Parce qu'ils sont nombreux. Ils se sont fait élire, ils sont plein.
Et un auditeur l'a dit, ils ont construit des maisons, ils se sont achetés des belles voitures.
Et on a vu pendant, je crois que lorsque le président parle de la récréation, pendant la transition, c'est en fait, il veut parler de ça, de l'immoralité qui s'était généralisée, où n'importe qui, où l'État a disparu complètement. Alors, je crois qu'il faut attendre que le Premier ministre Gizenga, et ici, évidemment, moi, je pense que le président devrait soutenir, vraiment soutenir, le président Kizenga par rapport à sa majorité, qui est majorité parlementaire. Parce que la majorité parlementaire, c'est la majorité du président. Alors, si cette majorité-là doit être moralisée, je ne veux pas dire qu'ils sont des immoraux, mais si bah, ils sont aussi concernés par l'action du Premier ministre qui veut moraliser, ils risquent d'avoir des bras de fer là-bas. Alors, si le Premier ministre ne bénéficie pas du soutien du président de la République, ça crée, nous prêchons dans le désert. Alors, je pense aussi qu'on doit définir ce qu'est entendu par la corruption. Parce que pourquoi y a-t-il corruption chez nous? Pourquoi ça s'est bureaucratisé? D'abord parce que l'on...
Il n'y a pas de salaire?
On ne paye pas, il n'y a pas de politique sociale, il n'y a pas de politique salariale. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les gens, bon, ils pensent que quand il a l'occasion de voir l'argent de l'État, il détourne. Et c'est pourquoi aussi on demande qu'au Parlement, que les organes de contrôle soient laissés à l'opposition qui existe. Il ne faut pas que la majorité qui a le pouvoir se mette à se contrôler parce que c'est déjà la tendance que l'on voit. Les gens sont en train d'institutionnaliser la corruption. Chez nous, les Américains, les politologues qui m'ont enseigné, moi ici, les Américains, ont écrit, démontré que nous sommes, le Congo a un système kleptocratique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire un système de criminalisation, de corruption institutionnalisée. C'est dit, le président parlait aussi des criminels, mais les Américains, observant la pratique politique congolaise, ont trouvé que la criminalité est d'abord au cœur de l'État. Ils criminalisent l'État, ils criminalisent l'économie.
Donc,
ce sont des criminels.
Il faut combattre ça également.
Mais parce que c'est bureaucratique. Donc, nous devons changer nos institutions. Donc, la corruption ne se combat pas dehors. Ce ne sont pas des comportements légers, ce ne sont pas, en fait, des accidents, mais ce sont des habitudes de gestion. C'est-à-dire, nous avons un système, une mentalité de gestion de l'État, une culture politique qui est fondée sur le vol. C'est ça, en fait, la cryptocratie.
Alors, un habitant, si vous avez bien suivi, voit déjà la RDC comme un paradis. Bon, d'autres auditeurs, par contre, comme Iguelin Kamala de Goma, pensent que l'investiture du nouveau président n'est pas synonyme du début du bonheur. Mettons-nous au travail. Un autre auditeur, Norbert Mobolama, en Mbandaka Équateur, demande aux Congolais de ne pas penser que tout va tomber du ciel. Mettons-nous au travail au lieu d'attendre toujours que tout vienne des autres. De Likasi au Katanga, Damien présente ses félicitations au premier président de la RDC élu démocratiquement. Joseph Kabila, bien sûr, et demande au peuple congolais de faire preuve de patriotisme par le travail. Également au nouveau chef de l'État de tenir les promesses qu'il vient de faire. Maître Thomas Luango, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces déclivages entre ceux-là qui voient déjà le paradis dès le lendemain de l'investiture et ceux-là qui restent quand même modérés et qui pensent qu'il va falloir travailler pour qu'on atteigne ce paradis?
Oui, je pense que les gens, évidemment, prennent des images qui font un raccourci parfois traître. Penser que la République démocratique du Congo va devenir un paradis parce que un nouveau président a prêté serment, parce que on promet un changement, je pense que je dois les comprendre simplement en disant ils savent très bien que le chemin à parcourir est encore long. Le président lui-même a dit que c'est au bout de 5 ans qu'on pourra apprécier ce qui aurait été fait. Ce n'est pas un travail immédiat. En plus, encore une fois, comme l'a dit le professeur Biyoya, il ne faut pas renvoyer la balle à ce président. Il n'est que coordinateur. Il n'est que la lampe qui va jeter une lumière et nous signaler à quel moment nous sommes en train de partir vers un fossé ou d'en sortir. Mais c'est à nous. Et j'aime bien cette deuxième tranche, ce deuxième groupe de vos auditeurs qui pensent que l'investiture n'est pas le début du bonheur, mais c'est le début d'une phase où nous devons travailler, où nous devons devenir des patriotes. Effectivement, c'est cela, je pense qu'il faut. Les deux groupes ne sont pas très éloignés, mais il importe de ne pas être trop optimiste dès le départ. Je crois que nous avons été trop optimistes pendant des années. On nous a bercé de ces images de ce Congo qui est une merveille, qui est un paradis, et nous n'avions plus qu'à nous asseoir, chanter et danser. Je pense que ces images-là, il faut absolument les changer. Nous allons au-devant d'une période de travail. Nous devons travailler dur et mériter notre pain à la sueur de notre front.
Effectivement, les ex-belligérants estiment pour leur part également que le travail ne sera pas facile car la RDC est un grand chantier où tout est à refaire. Aussi, Moïse Nyarugabo, membre cofondateur du RCD Goma, estime que l'avenir de la RDC est une affaire de tous. Le président élu ne peut à lui seul répondre aux attentes de la population dans la mesure où les défis à relever en cette troisième république sont immenses. Toujours selon Moïse Nyarugabo, son parti ne va pas manquer d'apporter sa contribution pour la reconstruction de la RDC. Il a été joint au téléphone par Babel Mpongo suivant.
L'avenir de la République démocratique du Congo va dépendre du fait que tous ensemble nous allons vouloir qu'elle soit la République. C'est vrai que la grande responsabilité incombe au gagnant, incombe au président qui va être installé. C'est lui qui va conduire la nation, parce que c'est sa politique qui va être appliquée. Mais je pense qu'il y aura besoin de l'intervention, de l'implication, de la contribution de tous les citoyens, chacun en ce qui le concerne, et bien sûr à des niveaux différents, mais aussi à des compétences différentes. Il faut reconnaître que les défis sont immenses. Les attentes de la population sont incommensurables, donc ça va demander beaucoup de sagesse, beaucoup d'ingéniosité pour produire beaucoup de moyens et rencontrer d'immenses besoins de la population sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan développement, sur le plan santé, éducation et beaucoup d'autres.
Oui, et dans cette nouvelle république, quel rôle vous et votre parti politique, le RCD, vous comptez y jouer?
Nous allons être dans les assemblées provinciales, nous allons certainement être dans le gouvernement provincial, pourquoi pas avoir des gouverneurs, des vice-gouverneurs. Donc dans toutes ces institutions, nous allons être représentés. Là où nous sommes impliqués, nous allons contribuer avec tout notre savoir-faire, avec toute notre crédibilité et notre expertise.
Alors, la sécurité, la stabilité politique sont parmi les défis à relever dans les 5 prochaines années. Pour le rapporteur de l'Union pour la Nation, il faut attendre la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale pour concrétiser cela. Délice Sanga espère que le programme qui sera proposé par le camp qui sera en affaires répondra aux besoins de la population congolaise. Quant à l'opposition, elle jouera son rôle de relever les limites de la nouvelle équipe. Délice Sanga, joint par Thérèse Kankou, suivant.
Par rapport à l'avenir de la RDC, nous pensons que les institutions qui vont être mises en place à la suite de ces élections vont proposer au pays un vrai programme pour pouvoir s'atteler à ce qui préoccupe nos concitoyens au quotidien. Mais c'est au pouvoir de pouvoir répondre et non pas à nous qui sommes dans l'opposition.
Et quel programme d'après vous?
Vous savez, nous, pendant la campagne, nous avons fait valoir notre programme qui était axé essentiellement sur la justice, la sécurité et le développement du pays. Nous n'avons pas eu connaissance d'un programme alternatif qui était proposé par les camps adverses. Aujourd'hui que ce camp monte aux affaires, nous attendons qu'il puisse proposer au pays un véritable programme avec des priorités telles qu'eux, ils les voient. Alors, vous savez, les défis objectifs de ce pays, on les connaît, c'est la sécurité, c'est la stabilité politique du pays, c'est la cohésion nationale, c'est la réconciliation nationale, c'est le développement économique, c'est la lutte contre la fraude et la corruption. Les défis, on les connaît, mais la manière dont ces défis sont hiérarchisés par les uns les autres ne sont pas identiques. Et donc, nous attendons. Je pense qu'il est assez tôt pour pouvoir faire des commentaires sur le fond. Il faut attendre qu'un gouvernement et une équipe soient mises en place. Nous attendons que cette équipe soit crédible, que cette équipe donne les gages en ce qui concerne la capacité à traiter de ces problèmes réellement au quotidien. Et en tant qu'opposition, la population peut savoir que nous serons là pour relever les différents écueils et pour pouvoir souligner les limites que nous pourrions être amenés à observer.
Alors pour le secrétaire général du PPRD, avec l'investiture du président Joseph Kabila, on entame le processus des reconstructions de la RDC. Vital Kamerhe affirme à cet effet que son parti va œuvrer pour l'intérêt du peuple congolais. Il sollicite cependant une période probatoire, le temps, dit-il, de mettre en place de nouvelles institutions de la Troisième République. Vital Kamerhe a été joint au téléphone par Babel Mpongo.
Je crois que nous entrons dans un nouveau processus, le processus reconstruction du Congo, pour résoudre non seulement le problème du Congo, mais le problème de l'ensemble de l'Afrique. Et je crois que c'est cela que nous devons faire, et nous n'avons pas le choix. Si nous voulons survivre en tant que peuple, et si nous voulons réellement recouvrer notre dignité en tant que nation.
Quel rôle le PPRD compte jouer justement dans l'avenir du pays?
Nous avons notre projet de société. Nous aurons un premier ministre ici de Palou, mais nous allons participer dans toutes les institutions en privilégiant avant toute chose l'intérêt général, c'est-à-dire le peuple congolais et nous oublier nous-mêmes. Nous n'avons pas de choix, sinon nous serons disqualifiés en tant que politiciens. Personnellement, je ne vois pas comment dans 5 ans, je vais venir encore faire la campagne de Joseph Kabila, ma propre campagne comme député à Bukavu, dans le Sud Kivu. Si quoi, d'ici de 5 ans, il n'y a pas de changement qualitatif qui intervient dans le pays. Donc si nous ne réalisons pas toutes les belles promesses que nous avons faites à ce peuple va nous disqualifier. Mais nous demandons en attendant qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous donnent une période probatoire, parce que nous sortons quand même d'une période difficile. Ce n'est pas à partir du 7 que les solutions vont commencer. À partir du 7, nous entrons dans d'autres tractations. Nous devons mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale. Nous devons mettre en place le gouvernement par un premier ministre qui sera nommé par le président de la République au sein de la majorité. Nous devons terminer les autres élections des sénateurs, des gouverneurs et locales et municipales. Donc nous avons quand même, et nous demandons à cette période, une petite période probatoire pour que nous ayons toute la structure institutionnelle de la Troisième République et nous voir finalement à l'œuvre.
Oui, professeur Bioya, que dire de ces 3 interventions des ex-belligérants quand même, ceux-là qui ont fait la guerre pour que nous puissions arriver à cette transition et finalement à cette Troisième République?
Je vois qu'il faut les absoudre de péchés qu'ils portent du fait de la guerre et, ou les oublier comme belligérants, commencer peut-être à parler des citoyens, passant des citoyens, des responsables qui ont géré l'État. Je voudrais souligner 2 choses. La première, je commencerai peut-être par la dernière intervention du secrétaire général du PPRD. Je crois que c'est pas la période probatoire. Avec sa permission, je voudrais qu'il m'autorise que je dise que c'est pas tellement d'une période probatoire dont ils ont besoin. Ils ont certainement besoin de ce qu'on appelle un délai de grâce. C'est-à-dire que on ne doit pas tout de suite passer la période probatoire, c'est qu'on les met à l'essai. Je ne pense pas que après une élection brillante, avec une légitimité arrachée, que l'on demande encore une période probatoire. On a besoin d'un délai de grâce, c'est-à-dire de la compréhension en attendant. Et je crois que c'est ce qu'il voulait secrètement dire. Et la chose la plus importante, je crois que c'est Sanga qui a dit ça. Et je voudrais souligner ça. L'avenir de ces pays, à partir de ce que nous avons vécu depuis l'indépendance, c'est l'absence de stabilité institutionnelle. C'est-à-dire que nos institutions n'ont jamais eu la chance de fonctionner adéquatement. Alors, nous devrions comprendre ça aujourd'hui. C'est pas la stabilité tellement institutionnelle. Depuis 60, qu'est-ce que l'on remarque? Et je voudrais qu'on note ça. On a toujours remarqué dans notre pays un coup d'État permanent de l'exécutif contre le législatif. C'est-à-dire que de tout le pouvoir qui nous a amené des troubles, des guerres dans ce pays, c'est le pouvoir exécutif. Hein, de Kassavubu jusqu'à Laurent Désiré Kabila, les problèmes naissent toujours de la manière dont les chefs d'État, en fait, conduisent les affaires. Et ils respectent pas souvent l'autorité du pouvoir, par exemple, législatif. Donc, l'on doit veiller sur ce qu'on appelle la séparation de pouvoir, parce que c'est ça même le moteur, le cœur de l'État de droit. Et à ce moment, ça signifie quoi? Ça signifie, comme maintenant, la majorité présidentielle se confond avec la majorité parlementaire, l'on doit faire attention. Si le Parlement ne retrouve pas son autonomie en tant qu'institution, si le Parlement se met à se confondre avec l'exécutif pour assister le président de la République, nous sommes déjà dans la dérive.
Il y a quand même des craintes de ces côtés-là. Il y a des craintes. La structure même de ces parlements où le camp du président Joseph Kabila, qui lui va conduire l'exécutif, est quand même majoritaire au Parlement.
Oui, la majorité n'exclut absolument rien et ça n'autorise rien. C'est maintenant dans l'essence de la responsabilité. C'est-à-dire maintenant, qui vont mettre certainement le président du bureau de l'Assemblée sera de l'AMP ou du PPRD. Mais ils doivent savoir qui mettre. Et que cet homme-là ne doit pas être là-bas comme celui qui s'est dit attaché au pouvoir du président dans l'exécutif pour... Non, non. Ils doivent d'abord sauver ce qu'on appelle l'indépendance de cette institution. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, la fonction présidentielle elle-même a été souvent instrumentalisée. Elle est souvent l'objet des contrôles, aussi bien externes qu'internes. C'est qu'on n'a jamais permis au président de la République, depuis que nous sommes indépendants, à être autonome, à nous présenter une direction qui provient de lui et qui provient en fait de la prise en compte de forces politiques internes. Kassavubu a connu des problèmes parce qu'il n'a pas voulu faire la politique de puissance qu'il demandait de limoger le Premier ministre et il a fait la limoger. Mobutu, qui a été mis là-bas pour servir de cause externe, il s'est battu pendant tout le temps à retrouver l'autonomie et je crois qu'il est parti, comme vous le savez, et Laurent Désiré Kabila, il a fait long feu. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas voulu en fait qu'il fonctionne. Et je ne pense pas que ces pressions, ces contraintes, ces lois qui semblent en fait diriger notre destin aient disparu. Donc, vous voyez que la stabilité institutionnelle, c'est la chose la plus importante. La légitimité, c'est déjà passé. On met ça au passé composé, au passé simple maintenant. Oui. Mais c'est la capacité pour le chef de l'État de demeurer chef des Congolais et aussi partenaire de la communauté internationale, de demeurer en fait suffisamment vigilant pour que tous les défis mondiaux ne lui échappent pas et que les défis internes ne perdent pas la face devant des exigences ou des contraintes externes. C'est ce défi-là qui fera que la stabilité institutionnelle conditionne tout le reste. Et si on n'a pas cette stabilité institutionnelle, tout le reste là, c'est la foire.
Oui, Maître Thomas Luango, comment est-ce que vous analysez également les trois interventions des hommes politiques, donc du RCD, du PPRD et du MLC, qui étaient quand même les grands acteurs de cette transition?
D'abord, madame, je voudrais qu'à l'intention de la population, il soit clair que, comme disait le professeur Bioya, il faut leur accorder une certaine absolution, semble-t-il. Les appeler citoyens et ne plus parler de belligérants, je pense qu'effectivement, les élections sont censées avoir fait un certain nettoyage et que donc ceux qui ont été récupérés par les élections soient désormais respectés comme tels. J'espère qu'ils sont vraiment déshonorables. Ça dépendra aussi de leur comportement. Je pense en second lieu qu'il est heureux que ceux-là qui étaient aux affaires jusqu'à la date des élections, jusqu'à la date de ces prestations de serment, jusqu'à aujourd'hui donc, demain ce sera peut-être autre chose, mais que ceux-là essayent eux-mêmes d'analyser le passé et de voir ce qui doit être fait, je pense que c'est heureux en espérant que effectivement le passé est derrière eux et qu'ils ne vont pas tout à coup se laisser rattraper par ce passé. La situation, par exemple, dans le Nord Kivu montre, entre le Nord Kivu et le Sud Kivu en fait, montre que le diable est toujours là et que donc nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il est heureux que parmi les acteurs d'hier, il y en ait qui viennent nous dire qu'effectivement on doit changer, on doit abandonner certaines idées du passé et adopter un avenir. Le peuple congolais mérite un avenir différent de celui-là. Je suis heureux que, par exemple, un des intervenants parle de cette échéance 2011, les prochaines élections. Effectivement, il faut qu'ils aient en tête que dans 5 ans, ils doivent revenir devant le peuple électeur et que s'ils ils n'ont pas réalisé ne fût-ce qu'un petit peu le rêve de ce peuple électeur, bien entendu, ils seront sanctionnés. Ce qui vient de se passer montre déjà que le peuple congolais est capable de sanctionner ceux qui ne répondent pas à ses besoins et qui ne remplissent pas convenablement leurs fonctions.
Oui, maître.
Je pense que c'est très bon.
Oui, maître Thomas Luango, le professeur Bioya parlait tantôt là des relations avec l'extérieur et disons que
la fonction présidentielle n'est jamais laissée libre. Le président de la République, il n'a pas le temps de servir ses propres destins.
Oui, nous allons parler de ces relations-là avec l'extérieur, parce que disons d'abord que la Belgique a été le pays occidental le mieux représenté à la cérémonie d'investiture de Joseph Kabila, et en termes d'appui, parce que le Congo a toujours été appuyé par l'extérieur. L'ancienne métropole promet d'augmenter son aide annuelle de 40 millions d'euros si la bonne gouvernance est respectée. On écoute son ministre de la Coopération et du Développement, Armand Dedecker, au micro de Georges Kanudjova, qui a assisté à cette cérémonie d'investiture aujourd'hui.
On double notre aide parce qu'on croit dans l'avenir du Congo, on croit dans l'avenir des Congolais et dans leur volonté de reconstruction et de stabilisation de ce pays, comme le dit le président, la fin de la récréation. Maintenant, il faut se mettre au travail, et nous allons aider pour contribuer au financement des infrastructures dont il parle, les infrastructures de santé aussi, les infrastructures routières et de chemin de fer, dans tous les domaines où ce sera nécessaire. Ce sera évidemment une aide conditionnée à la poursuite du processus de démocratisation et de bonne gouvernance. Ce sera conditionné à la bonne gouvernance. Comme le président de la République l'a dit, nous croyons que le Congo ne se développera que à condition qu'il y ait de la bonne gouvernance. Autrement, tout sera des emplâtres sur des jambes de bois.
Oui, maître Thomas Luango, comment comprendre ces discours, cet appui qui est quand même conditionné à la bonne gouvernance de ces pays?
Oui, madame, effectivement, c'est un peu le nouveau langage depuis une dizaine d'années, les aides conditionnées même. La bonne gouvernance, justement, peut poser un problème parce que il n'est plus jamais dit que ce qui est bonne gouvernance à l'intérieur du pays, en faveur de la population du pays, et bonne gouvernance en ce qui concerne l'extérieur. Et le professeur Bioya n'arrête pas de le rappeler. Effectivement, nous sommes ce pays qui a le malheur d'avoir les regards toujours tournés vers l'extérieur, non pas pour dire « voici ce que nous possédons nous aussi », mais toujours pour dire « voilà ce qui nous manque, apportez-nous ceci ou cela ». Je pense qu'il faut garder raison dans tout ceci. 40 millions d'euros, ça a l'air d'être un chiffre énorme. Mais 40 millions d'euros, ça fait à peu près, sauf erreur de ma part, ça doit faire entre 4 et 10 kilomètres de route à construire et asphalter. Moins de 10 kilomètres, ça fait entre 4 et 10. Donc, je ne sais pas ce que ça représente, franchement, ce discours qui vient nous parler d'un cadeau de 40 millions d'euros. Mais j'ai cru entendre tout à l'heure, pendant la prestation de serment d'un journaliste, que la Belgique aurait épongé la dette du Congo vis-à-vis de la Belgique, il semblerait. Je dirais, je ne connais pas bien cette dette pour le moment, je dirais que c'est déjà cela. Mais aussi, cette dette, vous savez qu'elle nous a toujours opposé à la Belgique, nous ne savons pas très bien à quoi elle correspond. En fait, le Congo, depuis des dizaines d'années, a été tellement mal géré qu'on ne sait même pas quels sont nos vrais engagements à l'extérieur. Donc, 40 millions, c'est quoi par rapport à nos besoins? Je ne sais pas ce que ça représente.
Oui.
C'est très bien, hein, si on nous les donne inconditionnellement, peut-être. Mais si en plus c'est conditionné, je pense que c'est faible. Et j'aimerais enfin revenir sur ce que souligne le professeur Bioya. Le Congo constamment, mais je le dis maintenant dans mes termes, le Congo constamment rate la sortie du passé et l'entrée dans l'avenir. Nous ratons constamment le rendez-vous de l'histoire. Il est probable qu'aujourd'hui encore ce sera raté. À nous de jouer, de ne pas nous enfoncer aveuglément dans ce qu'on nous tend, à nous de jouer. Merci à la Belgique, c'est vrai, c'est très bien d'ailleurs qu'elle soit la première, on pourrait bien s'attendre à ça, mais voyons ce que cela représente, élaborons nos besoins d'abord, définissons ensuite nos propres moyens et voyons si nous avons absolument besoin de ces petites aides de l'extérieur.
Oui, maître Thomas Luango, nous allons poursuivre, mais passons d'abord aux opinions des auditeurs avec vous, Nadine Foula. Bonsoir. Bonsoir Breuil. Commençons par Mboussa Mukonda qui félicite le premier président démocratiquement élu en RDC. Songa Kassindi Agoma dit « Ses premiers mandats sera plus ardu car il arrive après une longue transition. Nous appelons le nouveau gouvernement au travail avec ces pays qui est encore en chantier. » Basimika Jean-Marie à Bukavu, le président a déclaré la fin de la récréation alors qu'Agoma Mukonda se récrée toujours. Et avec ce nouveau mandat, a-t-il vraiment la cloche pour sonner la fin de la récréation? Mawanda Akamina au Katanga trouve que c'est une belle journée historique, mais il demande qu'on mette fin aux chansons tendancieuses qui choquent les autres. Patient Mwamba Ambandaka à l'Équateur dit « Le président a prêté serment, c'est bien, mais il reste à savoir s'il va honorer ses promesses. » Par Internet, Jean Maevas de Londres à Grande-Bretagne dit « Bon nombre de compatriotes partis hors du pays n'ont cessé de penser à rentrer. Nous espérons que le premier gouvernement directement élu par le peuple pensera à créer les conditions favorables au retour de ses fils qui ont pour la plupart plein de projets à mettre en chantier. » Michel Alboumbashi au Katanga demande « Peut-on déduire de finir la récréation que la transition animée par 1 plus 4 était caractérisée par le jeu à tous les niveaux ?» Pour Doris Bintou à Kananga au Kasaï occidental, aujourd'hui c'est la théorie, nous attendons la pratique et que le serment prêté par notre président ne soit pas qu'une légende. Par Internet, Baba Moulengwa de Kipunda au sud Kivu pense qu'il faut que le nouveau gouvernement prenne en considération toutes les revendications des politiciens, quelles que soient leurs tendances politiques, car la présence d'une seule personne à la magistrature suprême ne signifie pas qu'il faut dévorer toute la classe politique par son appétit. Et enfin, Don, qui nous écrit des Soyo en Angola, voudrait que le nouveau pouvoir crée des emplois pour que le taux de chômage baisse. Cela nous permettra de revenir travailler au pays.
Voilà quelques opinions des auditeurs et professeur Vioya, votre réaction, comment est-ce que vous les analysez brièvement
de l'émission? Je dirais ce que nous disons, nous deux, avec l'avocat depuis le début. Le discours, il a été bien présenté, mais il est resté pour beaucoup théorique, c'est-à-dire qu'il n'est pas opératoire ou opérationnel. Parce que le principal problème, c'est que par où va-t-on commencer pour reconditionner autrement le Congolais, pour ranimer, parce que le président a dit régénérer. Et je crois que souvent quand nous disons le Congo est en chantier, nous allons vite en besoin. Nous construirons l'avenir sur des ruines. Le Congo a été complètement ruiné. C'est une maison en ruine qu'il faut en fait relever. On ne sait pas s'il faut refaire le plan ou alors il faut rebâtir, alors il faut refaire même les fondations et construire parce qu'on va refonder l'État et le président l'a dit aussi aujourd'hui. Donc l'entreprise n'est pas simple, n'est pas facile. Nous ne rebâtirons pas ce pays, nous ne relèverons pas ce pays seulement à partir comme des 40 millions de dollars. 40 millions, vous savez, au Burundi, on donne combien? Au Burundi, on donne pas 40 millions d'euros. Hein. Au Burundi, on donne au-delà des centaines. Mais le Burundi, ça entre combien de fois en RDC? À l'Afghanistan, on donne combien? On donne des milliards, des dizaines de milliards en Afghanistan. Presque partout, quand on intervient, la communauté intervient. Mais le Congo qui donne toutes les richesses.
Mais quelque part,
permettez, il faut que l'on dise ça.
Professeur Bouyoya, mais quelque part, est-ce que depuis qu'on vous-même vous l'avez dit, les Congo a toujours vécu avec les aides extérieures, ça lasse.
Non, je dis, mais le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que la générosité de la communauté internationale à l'endroit du Congo, elle est vraiment, hein, elle est recherchée, elle n'est pas trop évidente, mais les convoitises. Le Congo donne trop au monde qu'il ne reçoit. Et c'est pourquoi nous pensons que, en fait, les tests de la vérité, de l'indépendance, ça sera la volonté de notre gouvernement de redresser des équilibres traditionnels, de rechercher un véritable partenariat avec les autres. Ça signifie que nous ne refusons pas que les autres nous donnent, parce que nous sommes membres de la communauté internationale et nous nous donnons aussi. Nous avons donné l'énergie qui a fait la bombe atomique, qui a rapporté beaucoup d'argent à la Belgique. Il y avait un contentieux, je ne voudrais pas réveiller ça, il y a eu un contentieux belgo-congolais. Vous savez qu'il y a des sociétés de droit congolais qui sont passées. Des droits congolais sont devenus des sociétés de droit belge à l'indépendance. Et c'était combien? C'était des milliards de francs lourds. Ça, on n'en parle plus, c'est enterré, parce que si vous parlez de ça, vous n'avez pas d'avenir. Mais nous pouvons nous relever, mais c'est pas avec 40 millions. Et l'espoir du Congo ne doit pas être sur les 40 millions de dollars ou d'euros qu'on peut recevoir. Moi, je travaille avec Laurent Désiré Kabila. À chaque fois qu'on lui parlait presque partout, 10 millions à donner, il était fou de rage. Parce que le Congo ne mérite pas 10 millions, 40 millions, même 100 millions.
Oui, Maître Thomas Luango, également, brièvement, votre réaction par rapport à ces opinions des auditeurs. Nous sommes à la fin de cette émission.
Les opinions des auditeurs, encore une fois, je les remercie.
il faut montre de clairvoyance. Il y a des opinions dans tous les sens. Et ici, aujourd'hui, spécialement, beaucoup de doutes sur l'avenir, sur ce que va vraiment faire le président, mais des doutes fondés notamment sur le constat que la tâche est très difficile. Au moment où nous sifflons, comme on dit, je n'aime pas beaucoup cette expression de la fin de la récréation, parce que finalement, il est vrai que ça a été ça, mais c'est une récréation macabre, c'est une récréation avec des massacres, avec 4 millions de morts. Au moment où on siffle, il y a juste dans le pays d'autres qui sifflent le début d'une nouvelle guerre et nous ne pouvons pas l'ignorer. Je suis content que la population montre qu'elle est consciente de cela et que nous ne faisons pas de chèque en blanc à ceux qui vont gouverner et surtout pas à l'extérieur. La diaspora, par exemple, nous dit qu'elle voudrait revenir, il faut que les conditions soient réunies. J'aurais bien aimé qu'elle vienne nous aider à établir ces conditions, d'autant plus qu'elle nous déclare avoir des projets déjà élaborés. Ce serait certainement très bon s'il nous revenait avec ces projets.
Oui, Maître Thomas Luango.
Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire. À vous, madame.
Ah oui, je voulais dire, donc, c'est par là que nous allons mettre fin à cette émission et nous disons merci à tous les auditeurs qui ont participé pour que nous puissions avoir un débat sur ces plateaux. Nous disons également merci à vous qui avez accepté cette invitation et donc au prochain dialogue entre Congolais. Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Oh, God, dear.